Voilà. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Article 25, c'est aujourd'hui et nous avons des invités qui vont se présenter.
Oui, bonjour à tous. Nicole Giraudy, je suis présidente de France Cuba Marseille 13, donc une association qui est renée, je dirais, en février dernier, en 2025, et qui maintenant a un an et compte 80 adhérents. Donc on est assez satisfait du regain d'intérêt qu'ont pu susciter les questions cubaines et la situation. On va y revenir, hein. Mais bon, je vais laisser se présenter mon collègue.
Jean-François Gast, je suis le secrétaire de l'association France Cuba Marseille Bouches du Rhône. Et oui, effectivement, Cuba, c'est aussi l'actualité internationale, l'actualité de notre pays et de la communauté européenne qui a besoin de se repositionner sur le droit international, mais aussi sur une politique d'autonomie, une politique de coopération et de culture pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde entier.
Voilà, le temps est donné, comme on dit.
Je dirais surtout d'une culture de paix.
Oui, voilà, culture de paix, oui.
Qui fait beaucoup défaut.
Voilà. Bien, pour commencer l'émission, nous allons voir un peu ce qu'il en est pour les voiles pour Gaza. J'ai appris, on m'avait dit qu'ils ne sont pas très loin de l'Italie maintenant, c'est bien ça. D'accord. Et combien de flottilles, combien de voiliers approximativement?
Je sais, moi, que 20 sont partis de Marseille. Et il y avait aussi des gens qui partaient de Barcelone. Et puis, il y aura des Italiens qui, maintenant, se sont joints à la flottille. Et puis, la Grèce. Et puis, aussi, des pays de l'autre côté de la Méditerranée.
Donc, c'est une grande épopée, quoi.
Une grande épopée, courageuse et vraiment de gens très jeunes. Qu'on ne peut que féliciter d'avoir pris ces initiatives. Et puis, on a pu le voir au départ de l'Estac, comment ils ont été organisés, aidés par les Estacéens et par beaucoup de Marseillais. Mais eux-mêmes, ils ont une volonté de faire, quoi. Ils étaient admirables pour des gens si jeunes. Hein. La plupart, je pense, ont moins de 30 ans. Et ils savent les risques aussi qu'ils prennent. Mais ils ont eu, au départ en tout cas, ils se sont entourés de sécurité dans leur organisation.
Donc, en définitive, beaucoup de jeunes sont partis, quoi. C'est bien ça?
Oui, oui.
D'accord.
Des jeunes...
Un peu plus expérimentés aussi.
Voilà. D'accord, oui. Hein? Bah oui.
Des militants.
Il y a des élus aussi.
Oui.
D'accord.
Des militants qui ont déjà eu une expérience de flottille et de situation... dans ce Moyen-Orient où Israël et les États-Unis veulent faire ce qu'ils veulent, et c'est-à-dire beaucoup de massacres. Ce que l'on sait, c'est que la flottille qui est en train de se préparer en Méditerranée, avec un grand rassemblement en Italie avant de partir sur Gaza, c'est une flottille encore plus grande que ce qu'il y a eu la dernière fois. Normalement, c'est une flottille qui devrait atteindre et dépasser les 100 navires. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on est dans une situation complètement folle. Alors qu'il y a une mobilisation internationale pour cette nouvelle flottille contre le blocus de Gaza et contre le génocide de Gaza, jamais les médias dominants de notre pays, que ce soit... les télés, les radios, les journaux détenus par les 8 milliardaires en France, il y a une véritable censure sur cette flottille-là. En même temps, c'est aussi une censure qui est renforcée sur ce qui se passe à Gaza, sur les crimes de guerre et le génocide que Israël et les États-Unis organisent sur Gaza, sur la Cisjordanie, mais malheureusement, aujourd'hui, on le voit sur le Liban. Et cette question de Gaza, elle peut aussi nous ramener à l'ensemble des guerres que nous voyons sous nos yeux, y compris, alors là, on nous parle de guerres asymétriques. Alors effectivement, les guerres asymétriques, ça permet de résister aux guerres de l'impérialisme américain, mais quand on voit le blocus dont Cuba souffre, et dont souffrent aussi les Caraïbes, c'est un blocus supplémentaire, navale, militaire, que les Américains organisent depuis la fin de l'année dernière, début janvier, autour de Cuba, et qui est aussi un génocide. Il n'y a pas de bombe, mais d'une manière délibérée, le blocus sur l'énergie dont est privé le peuple cubain et Cuba, ben, ça occasionne des centaines de morts. Quand il y a eu les pénuries de gazoil et de pétrole, ben, ça a fait mourir des dizaines d'enfants qui étaient en couveuse, des dizaines de personnes qui étaient perfusées dans les hôpitaux.
Qui avaient besoin d'assistance respiratoire, hein, toutes les personnes vulnérables. Et effectivement, les chirurgiens ont beaucoup de mal à terminer leurs opérations, puisque les coupures de courant sont fréquentes et longues. Par exemple, elles durent 20 heures dans un hôpital. Les générateurs ont besoin aussi de se régénérer. Et souvent, les chirurgiens sont obligés de terminer à la lampe de leur portable les opérations. C'est vous dire la prise de risque permanente dans laquelle ils sont et le danger dans lequel sont les patients.
D'accord. Est-ce qu'il en est... Et de l'eau, qu'est-ce qu'il donne de l'eau exactement ?
De l'eau...
De l'eau dite potable pour...
Oui.
Ben, quand on n'a pas d'énergie, et on sait que la population cubaine, elle est très urbaine. L'essentiel de la population de Cuba réside dans les grandes villes de Cuba. Il y a la Havane, mais il n'y a pas que la Havane. Et on sait qu'une ville sans énergie... Ben, ça touche tout. Hein.
Les pompes ne peuvent pas marcher sans électricité. Donc, ça pose un problème d'hygiène publique, hein, bien évident.
Et puis de conservation alimentaire.
Question, c'est l'eau.
Une eau, quand elle n'est pas distribuée, une eau, quand elle stagne, quand elle ne peut pas être traitée, oxygénée, ben, c'est une source de contamination supplémentaire.
D'accord.
Donc le blocus...
J'interviens également. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé de Gaza. Moi, je fais partie du comité sur Gaza. Mais le problème aujourd'hui, vous êtes venu pour parler des Caraïbes, hein, pour faire un peu la comparaison avec ce qui était existant. Je pense que ce serait bien déjà, vous avez parlé de vos associations, mais quel est le but de vos associations et pour quelles raisons vous avez réanimé ces associations? Et ce qui serait bien, c'est ça, c'est déjà que vous présentiez votre association.
Donc l'objet de l'association, il est double, hein, c'est celui de la solidarité internationale, hein, de notre place de citoyen. On peut difficilement rester insensible à tout ce qui se passe et à ces politiques génocidaires, qu'elles soient à Gaza et ailleurs, et aussi à Cuba. Et puis le deuxième élément, c'est aussi encourager les gouvernants, donc faire pression sur eux, parce que vraisemblablement, les institutions, qu'elles soient nationales ou européennes, ne font pas leur travail de façon très déterminée, à savoir venir en coopération, en aide humanitaire, quand il y a ne serait-ce que l'ouragan qu'il y a eu en octobre à Cuba. La France a fait plus que très peu, hein, des déclarations, ça ne coûte pas grand-chose, et ça ne s'est pas vraiment amené à être des faits. Donc, c'est pour ça que nous, on fait des pétitions, on essaie de faire des pressions, d'abord sur le gouvernement français, et surtout sur les députés européens, parce que ça se passe à ce niveau-là. Donc, on voit avec les députés européens, on leur a demandé d'intervenir au niveau de PACA. Donc, sachant que, il n'y a qu'une députée européenne qui est progressiste, qui est Marina Mesure, tous les autres, c'est même pas la peine de leur demander. On sait bien de quel bord ils sont, et ils sont trumpistes qu'ils n'en peuvent plus. Hein. Donc, on n'insiste pas là-dessus. Donc, nous, on a un double volet. Tout ce qui est aide humanitaire, avec toutes les difficultés qu'on a à les acheminer compte tenu du blocus. L'aide financière aussi, parce qu'ils peuvent aussi acheter là-bas, sur place, des choses. Mais les banques actuellement bloquent. Il faut savoir que la loi sur l'extraterritorialité empêche de tout commerce et aussi les tractations financières. Alors, nous, en tant qu'association, on a été bloqués dans les premiers recueils qu'on a fait d'argent par rapport à l'ouragan Mélissa, octobre. En novembre, on avait réuni un certain nombre d'argent qui a été bloqué par la Poste, par exemple. Il faut le savoir. Hein, ce n'est pas que les banques américaines qui bloquent. Donc, notre action, elle est quand même à fédérer les citoyens pour qu'ils puissent, les citoyens, les associations. C'est pour ça qu'on a fait ces derniers jours sur Marseille, hein, une présence sur le Vieux-Port avec d'autres associations, Cubacop, avec la FAL, avec aussi bien sûr le mouvement de la paix. Et j'en oublie une là d'un coup, qui j'oublie, le mouvement de la paix. La FAL et LDH, bien entendu, la Ligue des droits de l'homme, pour ensemble montrer que on a repéré qu'il y a des choses communes dans tous les lieux qui souffrent dans le monde et qu'on a notre part de responsabilité en tant que citoyen. Je crois que c'est à nous de peser dans la balance, d'agir aussi. Et heureusement que les citoyens ont agi, ont rassemblé des médicaments, ont rassemblé des denrées alimentaires, ont rassemblé des sommes d'argent pour venir en aide. Par défaut, je dirais, puisque l'Union européenne en particulier a été particulièrement silencieuse pour condamner depuis toujours, depuis 1959, le blocus et le renfort du blocus envers Cuba et sa population.
Votre question de notre engagement par rapport à la solidarité avec Cuba, elle est importante. Cuba, c'est le seul pays des Caraïbes et d'Amérique du Sud qui n'a pas été recolonisé et qui n'a pas subi de coup d'État des États-Unis.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu énormément de tentatives. Ils ne s'en sont pas privés.
Et les attaques depuis 1962 contre Cuba, contre la révolution de 59 à Cuba avec Fidel Castro, le Che et les Barbudos, l'attaque des États-Unis, c'est aussi une attaque contre tous les peuples et les alternatives au capitalisme et à l'impérialisme US. Ça, c'est très net. 62, la mise en place du blocus par Kennedy, le blocus de Cuba, qui s'est débarrassé du régime fantoche pro-américain du dictateur Batista, c'est en rétorsion, 62. C'est-à-dire bien avant le plan Condor, c'est la réponse des États-Unis à la mise en place de la réforme agraire à Cuba, c'est-à-dire la redistribution de la terre aux paysans avec la confiscation de tous les domaines des compagnies américaines qui avaient remplacé les colonisateurs français et les colonisateurs espagnols. C'est une compagnie dont certains se souviennent, hein, c'est la United Fruit, qui a été la grande multinationale qui a financé le coup d'État dans les années 73 au Chili. Donc la défense de Cuba et la coopération avec Cuba, c'est tout à la fois tenir notre rôle de soutien à un peuple déterminé, qui résiste, et qui résiste notamment à l'impérialisme US et au capitalisme, en ayant développé un système original qui a réglé jusqu'à ce blocus pétrolier et le renforcement de toutes les sanctions supplémentaires que Trump a rajoutées au blocus vieux déjà depuis 1962. À Cuba, on a réglé les problèmes d'analphabétisme, les problèmes de santé, les problèmes d'inégalité sociale. Tout ça s'est mis à mal parce que c'est une référence très forte, non seulement dans les Caraïbes, non seulement dans l'ensemble du continent sud-américain, mais c'est aussi une référence internationale. Il faut aussi rappeler les combats que Cuba a menés dans les années 50-60 par rapport aux pays non alignés. Je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent, mais les pays non alignés, ça a été une tentative d'organiser différemment les relations dans le monde entre les deux blocs de l'époque, qui étaient d'un côté l'Union soviétique et de l'autre côté les États-Unis et l'Alliance atlantique. C'était tous ces pays qui venaient de se libérer du colonialisme et des empires coloniaux français, anglais et hollandais. Les pays non alignés, c'était l'Égypte, avec Nasser, c'était l'Indonésie, c'était l'Inde, c'était l'Algérie, c'était Cuba. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Cuba a été un artisan de ce non-alignement. Cuba, ça a été aussi un engagement très fort de lutte contre l'apartheid et les campagnes racistes de l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, mais aussi en Namibie, en Angola. Cuba, ça a toujours été un point d'appui pour la paix et pour les luttes anticoloniales. Un dernier mot sur cet élément essentiel de Cuba et des Caraïbes. Le premier pays des Caraïbes à s'être débarrassé du colonialisme et de l'esclavagisme, c'est Haïti, bien avant Cuba. Et Haïti, c'était une colonie française, c'était un endroit où il y a eu une concentration du trafic d'êtres humains, du commerce des esclaves. La différence entre Haïti et Cuba, c'est que Haïti a subi le néocolonialisme occidental et notamment le néocolonialisme français parce que Haïti a accepté de rembourser, entre guillemets, les esclaves noirs dont étaient privés les colonisateurs et les grands propriétaires français. Et la dette que la France a foutue sur Haïti, les Haïtiens ont terminé de se ruiner, de la payer à la fin des années 60. Et ce néocolonialisme dont Haïti a souffert, c'est-à-dire qu'ils se sont débarrassés du colonialisme français et de l'esclavagisme, mais ils sont tombés dans ce que les Américains aujourd'hui et Trump veulent faire et qu'ils ont organisé en Libye, en Irak, en Afghanistan. C'est ce qu'ils auraient voulu faire en Iran. Et c'est ce qu'ils veulent faire, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent refaire en Amérique du Sud avec la Colombie, l'Argentine, le Brésil. Donc on voit bien toutes les résistances qu'il y a eu dans cette partie de la planète. Et on voit bien le rôle symbolique, politique, mais aussi l'expérience particulière de Cuba dans la résistance au colonialisme historique du monde occidental, mais aussi la résistance contre le capitalisme et l'impérialisme. Et un dernier mot sur l'importance de Cuba et des Caraïbes. Il ne faut pas oublier que notre pays, la France, a deux départements dans les Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe. Et eux aussi, ces deux départements, ont été marqués et sont encore marqués par ces traits historiques du colonialisme, de l'esclavagisme et de cette espèce de néocolonialisme. Ces deux départements souffrent d'une domination de la métropole française et de l'Europe. Ces deux départements, quand ils manifestent, quand les populations de la Martinique et de la Guadeloupe manifestent contre les prix, manifestent contre un certain nombre de choses qui ne correspondent pas aux valeurs de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, leur problème, c'est que ces deux départements, on les empêche d'avoir des relations au niveau des Caraïbes et au niveau de cet hémisphère sud. 80% des échanges de ces deux départements se font avec la France et l'Europe. Et on voit bien que le modèle qui a été mis en place et qui vit à Cuba depuis 1959, eh ben, ça a résisté à toutes ces manœuvres d'écrasement et de poursuite de cette espèce de néocolonisation et de cet impérialisme raciste qui est prêt à envisager les pires catastrophes et l'apartheid. Notre engagement et ce que nous essayons de promouvoir au niveau de notre association, c'est de la solidarité concrète et de la solidarité, mais aussi politique. Et aussi, c'est s'appuyer sur l'expérience que ce continent, que cette île particulière a.
Oui, je vous propose pour faire une petite pause musicale, hein, parce que ce serait Kuiben. Et je vous rappelle que vous êtes sur Radio Galère, sur l'émission Article 25, sur 88.4.
Voilà. Après cet intermède musical, nous continuons donc l'émission donc, sur Cuba.
Alors, je voulais quand même dire que la musique continue à Cuba, malgré les difficultés du quotidien, hein, qui est rendu un peu insupportable pour les plus pauvres notamment, puisqu'il n'y a pas les denrées alimentaires, il y a une inflation énorme. Hein, donc ça aussi, c'est une entrave. On a parlé tout à l'heure de l'entrave à l'exercice de la médecine, par exemple, à l'accès à l'eau. Mais il y a aussi, bien sûr, le problème de denrées alimentaires qui n'arrivent pas, qui n'arrivent plus, et qui arrivent à un prix très fort. Il y a une inflation énorme qu'il n'y a jamais eu auparavant. Donc ça, il faut quand même le noter. Cependant, les gens continuent, dans leur grande majorité, à soutenir le gouvernement et à danser dans la rue et à chanter, parce que c'est un de leurs forts, hein, la création artistique, la danse, c'est quand même un de leurs points forts. Et je me permets de dire, puisqu'on parle de leurs ressources, ça en fait partie. Hein, il y a très peu d'émissions qui sont consacrées à Cuba. On pourrait en consacrer une seule, rien qu'à la créativité. On a aussi, bien entendu, tout ce qui est recherche médicale. Là aussi, on en parle peu. On en a eu parlé, parce que bien sûr, au moment du Covid, pendant qu'un pays comme la France n'a pas fourni un seul vaccin, Cuba en a fait 4 dans la première année et 7 par la suite. Vous voyez un petit peu leur niveau de qualité de recherche, puisqu'ils ont été utilisés, bien sûr, pour venir secourir, y compris les pays européens comme l'Italie, qui en redemande actuellement. Enfin, c'est surtout une province, la province de Calabre, qui redemande des médecins cubains actuellement. Mais pendant le Covid, bien sûr, il y a eu une aide des médecins cubains qui sont allés en Italie, entre autres. Donc, Actuellement, notre association, elle œuvre aussi dans ce sens, localement et nationalement, pour, et les autres associations avec lesquelles nous sommes partenaires, comme CubaCop, et puis la LDH et la FAL, on œuvre aussi pour que des coopérations médicales, notamment, se développent, parce que la France a besoin de médecins, parce que la France a... Puisqu'on a parlé tout à l'heure de nos îles, hein, les Antilles, on a quand même la Martinique, la Guadeloupe, on a aussi la Guyane qui n'est pas très loin. Et tous ces territoires-là ont, comme Cuba et Haïti, etc., ont besoin d'une certaine recherche ciblée, pointue, puisqu'ils ont un petit peu les mêmes problèmes, hein, le diabète, enfin tous ces des virus, des ravages, si le chikungunya, etc., qui sont quand même développés beaucoup là-bas, et ils ont, comme nous, tout intérêt à développer, mais à Cuba, bah, les moyens font défaut. Donc l'année dernière, à la fin du mandat de André Chassaigne, Monsieur Macron a quand même décidé de le charger d'une commission afin d'envisager que soit sur le territoire guadeloupéen, soit martiniquais, un travail soit développé en commun entre les chercheurs cubains et la France, et donc les chercheurs français, sur un territoire français d'un des deux départements, afin de produire de la recherche. Et ça serait, bien sûr, dans l'intérêt de tous. Il ne s'agit pas, quand on parle de Cuba, on n'est pas dans un pays qui est dénué de tout. Il a des intelligences, il a une haute qualité de formation du corps médical notamment, mais pas que. Et il faut aussi s'en servir comme ressource. Et on a des choses à se dire, on a de la créativité à mettre en route, aussi pour la préservation aussi des eaux. Et il y a des coopérations, je vais peut-être laisser Jean-François parler de cette coopération qui a commencé à s'envisager et se signer sur le territoire de Camargue, zone humide. Comme à Cuba, bien sûr, il y a beaucoup de similitudes. Et donc, il y a une coopération qui a été signée en octobre dernier.
Oui, Cuba est un sanctuaire naturel avec une dizaine de sites environnementaux classés patrimoine mondial de l'humanité. Et une partie de ces parcs... qui ont des ressources extraordinaires en papillons, en oiseaux, en poissons, en crocodiles et en autres insectes. Ils ont une expérience de protection du littoral, notamment avec des réimplantations de mangroves. Ce sont des techniques que Cuba a réussi à exporter, notamment dans toute une série de pays des Caraïbes. Et il y a un partenariat qui a été signé à la fin de l'année dernière entre le parc de Cienaga de Zapata et le parc de Camargue côté gare.
Héro et gare.
Et donc c'est un gros morceau du parc naturel de Camargue que nous connaissons bien. On peut regretter que les autorités politiques de notre département et de notre région n'aient pas fait comme la région Occitanie et le conseil départemental du Gard, avec l'intégralité de la réserve de Camargue qui est sur les Bouches-du-Rhône. Il y a un partenariat donc scientifique sur... les deux parcs, le parc de Camargue côté Gard et Hérault et le parc de Cienaga de Zapata, sur toutes les questions de zones humides proches du littoral, c'est-à-dire la montée des eaux de mer, la pollution, entre guillemets, du sel, des eaux douces et des remontées de sel dans les terres, et puis forcément l'érosion marine, d'où la protection des mangroves. Alors, en Camargue, on n'a pas des mangroves, mais on a, depuis la fin des salins du Midi et l'exploitation du sel, on a besoin de se poser la question de la protection du littoral, la protection de notre littoral, Et on sait que la digue à la mer que nous avons eue depuis très longtemps, qui servait notamment à l'exploitation du sel en Camargue, on sait que c'est une solution qui ne va plus se poursuivre et on a besoin de réfléchir à une nouvelle configuration de la protection et de l'aménagement de ce delta de la Camargue. Et c'est pour ça qu'il y a un partenariat particulier, global, sur toutes les problématiques liées aux zones humides et à ces zones de littoral. C'est un exemple. Cuba, dans les milieux écologiques, de défense de l'environnement, est très connu pour toute une série de gestion, d'expertise sur ces questions de protection du littoral et puis de protection de la nature. Cuba n'ayant pas développé l'utilisation des pesticides, Cuba est un énorme producteur de miel. C'est du miel qui est exporté. Nous, on arrive à en avoir par l'intermédiaire d'une miellerie et nous revendons du miel de Cuba.
Quand il arrive, quand parce il que arrive. Malheureusement, on en a eu dernièrement, mais on n'en avait plus depuis avril dernier. Donc c'est très sporadique.
Et donc ça, c'est quelque chose qui intéresse le monde entier, puisque il y a une richesse au niveau des oiseaux, des insectes et des abeilles, dont nous avons absolument besoin, pas que pour produire du miel, hein, comme vous le savez. Les abeilles et les insectes qui sont essentiels à la pollinisation de toute la nourriture que nous cultivons et que nous mangeons. Hein. Sans insectes et sans abeilles, on ne produit rien du tout, hein, on produit très peu. On a besoin d'insectes pollinisateurs et la forte utilisation de pesticides, notamment en France et en Europe, elle est catastrophique. Et on a besoin d'avoir aussi le retour d'expérience des pays où on prend différemment les techniques agricoles de production ou les techniques de préservation de l'environnement. Par exemple, en Camargue, la lutte contre le moustique, la lutte chimique ou la lutte plus ou moins réussie contre le moustique, malheureusement, ça détruit autre chose que le moustique. Et comme on détruit aussi des insectes, on détruit aussi ou on met à mal toute la vie amphibie, hein, les grenouilles, les poissons, les oiseaux. Et après, on a des proliférations anormales d'insectes qui ne conviennent pas à notre équilibre humain et à notre équilibre environnemental. Hein. On a des insectes ravageurs qui nous viennent d'ailleurs ou alors qui ne sont plus sensibles aux pesticides et on a besoin de revoir les luttes biologiques et d'aider la vie biologique. Donc l'expérience écologique, environnementale de Cuba nous intéresse directement sur un certain nombre de choses.
Quand vous dites que il y a une coopération dans le parc de Camargue, plus ou moins dans le Gard, et dans les Bouches-du-Rhône, visiblement pas. Mais cette coopération, elle se fait à quel niveau ? Au niveau des facs, au niveau des instituts de recherche ?
Au niveau des parcs et des instituts de recherche, les deux. Au niveau des parcs et des instituts de recherche. Mais ce sont des politiciens, des élus de droite et de gauche qui ont pris ces décisions, hein, dans l'Hérault comme dans le Gard.
Mais pas dans les Bouches-du-Rhône.
Et pas dans les Bouches-du-Rhône.
Pas encore.
Il faut souhaiter que les changements à la métropole nous aident à... Voilà, qu'il y ait plus d'ouverture en ce sens. En tout cas, tout le monde y gagnerait. Hein. On l'a bien compris. Il y a aussi dans le Gard des développements grâce à des élus et des maires ruraux, notamment, qui se préparent à l'accueil de médecins cubains en zone rurale dans le Gard.
Pour lutter
contre
la...
Autour d'Alès et dans le... Pas la ville d'Alès, mais des maires autour hein, de la ville d'Alès. Et l'hôpital d'Alès lui-même est en train de préparer ce genre d'accueil de médecins qui ont des savoir-faire dont on a besoin parce qu'il y a une désertification. Médicale. Tout comme il y a des négociations actuellement en Bretagne, vers Nantes. Il y a plusieurs endroits en France où il y a des pressions, où il y a des gens ouverts, quel que soit leur but politique, parce qu'il est bien question de la santé de tout un chacun, des habitants et des résidents des villes et des campagnes.
Oui, bien entendu. Jean-François, de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, hein, il faut rappeler quand même, et tu l'as rappelé, c'est qu'en définitive, au niveau de la formation, de l'éducation déjà, Cuba avait un plus haut niveau d'éducation. Et au niveau du système hospitalier, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on va rechercher certaines personnalités qui ont certains moyens, cherchent à se faire hospitaliser pour certaines opérations à Cuba. Et c'est vrai qu'en France, comme on manque de médecins, puisque bien entendu c'est le problème, automatiquement on a besoin de ces médecins cubains. Ce qui est un peu dommage, parce que tout compte fait, ce serait bien qu'on ait des médecins qui soient formés au niveau national. Mais du fait que de l'apport de ces Cubains, ça va apporter aussi une certaine expérience et une certaine connaissance aussi, qui peut manquer dans certains endroits.
Oui, ben, on rejoint le problème politique, hein, parce que le fond de la question, c'est à Cuba, on n'est pas dans une médecine qui se veut financiarisable. On n'est pas dans une médecine où on ne parle pas de coûts sans arrêt comme ça peut l'être chez nous. Le coût de l'hôpital, le coût des effectifs, le coût... On a des besoins et on considère qu'il faut mettre face aux besoins les moyens qu'il faut. Ça a été une des priorités de la Révolution. Ça a été une des priorités aux côtés de l'éducation et de la réforme agraire, bon, dont les Américains, justement, ont été privés. Les Américains ont été privés parce qu'il y a eu redistribution des terres. Et c'est bien de ces terres-là que Trump veut recoloniser, qui n'ont jamais, de toute façon, quel qu'ait été le gouvernement depuis 1959, ils n'ont jamais renoncé à ça. Hein. Donc, vous voyez bien que ça rentre dans une dynamique de colonisation comme on peut l'avoir à Gaza, au Liban, etc. Toutes ces choses-là sont le fruit de l'impérialisme et se rejoignent dans le fond. Donc on est face à un problème vraiment politique.
Et c'est vrai, mais du côté de Cuba, justement, tout à l'heure, vous disiez tout au moins que bien entendu, il n'y a pas eu de changement jusqu'à maintenant. Mais je crois que, je suis sûr qu'aujourd'hui, comme vous le dites, l'impérialisme américain est en train de remettre la main sur Cuba. Et d'ailleurs, le blocus s'est amplifié. D'autant plus, justement, du problème qu'il y a eu après avec la saisie du président de...
Maduro, du Venezuela.
Qui aidait en partie, justement, l'alimentation de Cuba. On sait qu'aujourd'hui, ils saisissent des pétroliers. On parle de blocus. Aujourd'hui, on parle beaucoup du blocus qu'il y a dans la mer d'Oman. Mais aujourd'hui, dans le Golfe, aujourd'hui, le blocus, il existe déjà depuis très longtemps du côté de Cuba. Et il s'amplifie, puisque, Trump... ne se cache pas qu'aujourd'hui, il veut remettre la main sur Cuba. Et c'est ce qui est, quoique on a tellement vu le projet de sa part, les plus fous d'ailleurs, que peut-être que rien n'est impossible non plus. Quoi. Donc, est-ce qu'il ne suffit pas est-ce qu'on n'est pas obligé d'être un peu prudent là-dessus?
Oui, cependant, la société civile, elle répond présent. Et il y a aussi des pays qui viennent en soutien. Je peux peut-être les citer, hein, la Chine... Elle amène pas mal de riz, de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques, parce que c'est très répandu. C'est une des ressources qui permet encore à certaines installations de fonctionner. On a y compris la Turquie, qui dernièrement a amené par bateau une centrale flottante, une centrale électrique flottante et des denrées alimentaires aussi. Donc il y a aussi des pays qui essaient de forcer ce blocus. Le Mexique, bien entendu, mais on en a entendu parler, donc il apporte de la nourriture, des médicaments, du pétrole aussi. La Russie a pu passer dernièrement avec des denrées alimentaires et un pétrolier complet qui est arrivé à Matanzas il y a une semaine et demie. Donc il y a bien sûr le Vietnam qui reste solidaire et qui aussi amène des denrées alimentaires. Je voulais quand même souligner le rôle du président espagnol qui est un des seuls à essayer de se positionner fermement face au aux excès de Trump. Et il est bien seul, malheureusement, au niveau de l'Europe. On ne peut que le regretter, mais il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a aussi, bien sûr, au niveau des États-Unis, il y a eu une autre flottille qui a été amenée par les amis de Bernie Sanders. Donc on en entend peu parler aussi, hein, de cette Nuestra America. Hein, c'est une flottille qui est arrivée dernièrement aussi à Cuba et qui a été aussi porteuse de denrées et de solidarité, des médicaments, etc. Donc ça, c'est quand même en lien avec la société civile. C'est aussi en lien, pour ce qui est des envois d'argent, avec les syndicats, parce que le monde ouvrier est très actif. Hein. Nous, par exemple, en France, dès qu'il y a eu l'ouragan, au bout d'un mois, il y avait 140 000 euros de récoltés par la CGT, qui a fait, s'est fait fort de les envoyer sur Cuba pour aider au relèvement de l'ouragan. Après post-ouragan Mélissa, il y a aussi des équipes d'ouvriers qui vont, d'électriciens qui vont sur place aider à monter, à réparer les centrales, à monter les panneaux photovoltaïques, à former aussi les gens sur place à manipuler tout ça, parce qu'il y a, cet ensemble de choses. Il est évident que face aux ouragans maintenant, dans certaines régions, ils savent démonter les panneaux photovoltaïques en prévention et les préserver pour pouvoir les remettre après. Il y a tout ce travail de solidarité ouvrière qu'il ne faudrait quand même pas oublier. Hein. Il y a quand même des savoir-faire qui sont transférés entre la France et pas que. Il y a aussi les Belges.
Voilà. Il faut aussi revenir sur notre responsabilité politique. Par exemple, en permanence, jusqu'à ces derniers mois, Cuba avait 20 000 personnels médicaux engagés dans différentes campagnes médicales. Le Brésil, la Colombie, des pays africains. Il y a 500 à 600 médecins en Italie. C'est les brigades médicales qui sont assez célèbres et qui ont des résultats extraordinaires. Les premières brigades médicales qui ont affronté en Afrique le virus Ebola, c'était des, sous l'égide de l'ONU, mais c'était des brigades cubaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trump a fait en sorte, avec les lois d'extraterritorialité, de considérer que les brigades médicales cubaines, c'était de la traite humaine, et il a exigé des pays qu'il domine en Amérique du Sud et en Afrique qu'ils dénoncent les contrats qu'ils avaient avec Cuba concernant la coopération médicale. C'est comme ça que, en Argentine, au Costa Rica, non, au Honduras. Ces deux pays qui sont repartis sous la coupe des États-Unis et de Trump ont dénoncé des contrats d'État à État qui fonctionnaient bien, dont les populations étaient très contentes. Donc ils ont cassé ces contrats. Et de la même manière que Trump a accusé l'Afrique du Sud d'être raciste envers les Blancs, Trump a développé toute une série de contre-vérité sur Cuba et ses médecins, c'est de l'esclavagisme. Je voulais donner deux éléments. Ceux qui sont intéressés sur le partenariat entre le parc naturel de Camargue et le parc de Ciénaga de Zapata, le 9 mai, dans le cadre du Festival de la Camargue, à la réserve dans le Gard de Scalaramandre, il y a comme invité d'honneur Cuba, et il y aura une présentation des techniciens cubains et des techniciens du parc de Camargue, une présentation de leur partenariat scientifique et technique au niveau de la gestion des parcs auxquels ils appartiennent. Une deuxième information sur notre responsabilité politique en tant que Français, en tant qu'association de solidarité avec Cuba. La semaine dernière, nous faisions le point avec le président des communes rurales du Gard, sur l'avancée de la coopération médicale avec Cuba et l'arrivée de médecins cubains pour lutter contre la désertification sur les communes rurales du Gard. Et le président de ces communes rurales du Gard nous disait que le problème auquel aujourd'hui ils sont confrontés, après avoir réglé tous les autres problèmes politiques, les échanges, c'était avec l'ordre des médecins, français, qui, sous prétextes multiples et variés, ne voulaient pas envisager la venue et la coopération avec des médecins cubains. Bon, quand on connaît l'histoire de l'ordre des médecins en France et quand on connaît l'actualité de cet ordre-là, enfin, je le rappelle à nos auditeurs, hein, l'ordre des médecins, ça a été créé sous Pétain et c'était très concrètement une organisation professionnelle, bourgeoise, pour maintenir la médecine dans ce qu'elle était, c'est-à-dire une médecine machiste et une médecine pour l'élite. Et aujourd'hui, on a besoin pour... les difficultés que nous avons de coopération médicale avec Cuba en Bretagne sont un peu du même ordre. On a besoin de lever l'opposition actuelle de l'ordre des médecins. Donc là, on a différents élus qui sont en train de s'y attaquer. Et nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Parce que cette contrainte, cette limite que l'ordre des médecins a aujourd'hui concernant une alternative qui est de s'appuyer sur la présence et l'expérience de médecins cubains, on a un peu la même chose sur le numerus clausus qui fait qu'aujourd'hui, notre pays, d'une manière délibérée, ne forme pas assez de médecins, alors qu'on sait qu'on est en difficulté et qu'il nous faut 10 ans pour former un médecin. Et donc, la bataille que l'on peut avoir sur cette question de coopération médicale avec Cuba, c'est aussi une bataille qu'on a besoin de tenir aujourd'hui si on veut faire face aussi à la désertification médicale auquel on a affaire dans nos besoins quotidiens. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas notre association qui l'a inventé, mais on a presque la moitié des Français qui n'ont pas de médecin de famille référent, alors que la loi oblige à avoir des médecins référents. Et pourquoi on n'a pas de médecins référents? C'est pas parce que les gens ils font le coup du lapin, comme certains aiment à le dire, c'est qu'il n'y a pas de suffisamment de médecins, et les médecins, à un moment donné, ils ne peuvent pas prendre des engagements quand ils savent qu'ils ne peuvent pas recevoir les gens qui les sollicitent.
Oui, aujourd'hui, on voit très bien, quand on voyage un peu, le nombre de villages où il y a une pancarte à l'entrée où on voit recherche médecin. Ça, c'est clair. C'est vrai que ça manque, il en manque des médecins. Ça, on le dit depuis longtemps, mais le problème, c'est qu'on le dit depuis longtemps, mais il n'y a rien qui change. Et aujourd'hui, depuis tout à l'heure, vous parlez de votre association, la Bretagne. Votre association, elle est, j'ai compris que vous êtes de la région, mais elle est représentée dans plusieurs donc, régions.
Oui. Hein? 36 régions.
36 régions.
36 comités.
Et maintenant, aujourd'hui, là, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il est envisagé de faire des actions? Quand je parle des actions, vous avez parlé tout à l'heure des actions communes avec la LDH. Moi-même, je suis de la libre pensée. On intervient aussi dans tous ces combats pour la liberté. Et qu'est-il envisagé aujourd'hui, dans un avenir proche, pour faire connaître tous ces problèmes ou pour lutter contre cette guerre et cet impérialisme américain, quoi, je dirais tout simplement, oui. Parce que c'est la même chose partout.
Bien sûr, tout à fait. Donc il faut bien avoir une vision globale. Hein. Ce n'est pas Cuba isolé dans le monde qui subit l'impérialisme. L'impérialisme, il est malheureusement large. Et Cuba, à 160 km des côtes américaines, résiste malgré tout ce qui est fait. Et puis, je voudrais quand même insister sur le fait qu'un des outils de guerre importants, ce sont les réseaux sociaux. Donc, nous, on peut, en faisant des campagnes, en venant ici aujourd'hui pour démystifier certaines choses, en faisant aussi des soirées ou à thème avec des débats qu'on fait, soit avec des partis politiques, soit avec des syndicats, soit avec des gens qui veulent aussi, on envisage maintenant de le faire même, y compris des soirées à domicile, pour discuter, effectivement, boire un mojito, mais discuter des contenus pour sensibiliser les populations, pour qu'elles puissent aussi venir nous aider au niveau des associations et faire pression sur les décideurs. Donc ça, c'est tout un volet qu'on développe depuis l'année dernière, notre création en février 2025. Mais on a aussi, bien sûr, des projections de films. Par exemple, on parlait de Ciénaga des Zapata. On l'a déjà passé à Septem, à Marseille, dans les locaux de la Marseillaise notamment. On avait fait venir une conférencière cubaine qui faisait partie, qui fait partie des comités de défense de quartier. C'est comme les comités de quartier ici, si vous voulez, c'est les comités de défense de la Révolution. Hein. Donc, elle a aussi pu répondre aux questions sur leurs pratiques démocratiques. C'est ça aussi, Cuba. C'est vrai que sur les ondes, dans le monde, y compris dans Libération, on entend avant tout que Cuba est une dictature. Mais quand on va là-bas sur place, et on est nombreux à aller là-bas sur place, quand on voit comment il fonctionne au niveau local, on aurait des leçons à prendre, nous, dans nos quartiers. On aurait de quoi monter, avoir quelques repères sur la démocratie locale, y compris, moi j'étais particulièrement étonnée sur le fait que dans des communautés agricoles, ils votent le chef à main levée. Et qu'ils disent pourquoi ils votent contre parfois, quand ils ne sont pas d'accord avec la manière de fonctionner ou des décisions collégiales qui n'ont pas été respectées. Hein, on fonctionne beaucoup collégialement à Cuba. Donc on a eu organisé ce genre de choses, on continue bien entendu, et il est important aussi d'y aller, parce que le gros point à Cuba, c'est qu'effectivement les avions, y compris Air France actuellement, ne partent plus, parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir retourner sur, et avoir du pétrole suffisant, bien que... Il y a des pays d'Amérique latine qui proposent de faire escale. Hein. Après, il y a aussi des choix politiques à Air France et ailleurs. Mais là, même Iberia pense qu'ils ne vont plus pouvoir y arriver en juin. Ils l'ont annoncé hier ou avant-hier, ce qui est quand même assez dramatique parce que beaucoup de Français se sont rabattus sur Iberia. Et il y a une compagnie chinoise qui continue à faire les vols sans problème. Hein. Donc on en est là quand même. Sachant que la principale industrie de Cuba, c'est le tourisme. Donc c'est vrai que c'est aussi une grosse perte financière pour l'économie cubaine, le fait que de moins en moins de touristes y vont. Ça s'est déclenché au moment du Covid, mais malheureusement, ça ne s'est pas relevé. Alors il y a beaucoup de Canadiens qui vont aussi, et beaucoup d'Américains, contrairement à ce qu'on peut croire, qui partent en vacances et qui retournent et qui apportent aussi de l'aide solidaire. Il y a la flottille dont on a parlé. Non, il sera américain, mais il y en a plein d'autres qui y vont aussi. Mais très souvent, ils passent par le Canada, les Américains, parce que ça leur est interdit. Ils passent par le Canada, ils arrivent à Olgun, qui est au milieu, hein, plutôt sur le côté. Après, ils vont sur Santiago, etc. Mais c'est Olgun qui est quand même un des points. Alors, les Français aussi, il faut passer par le Canada pour aller à Olgun. Mais il y a de grosses difficultés. Quoi.
Pour répondre à votre question, samedi, dimanche dernier, il y avait une mobilisation dans plus de 150 villes de France, réunissant une multitude d'associations
et de partis politiques. C'est le PC qui l'avait mis en exergue au début, puisqu'ils sont amis de toujours, amis historiques de Cuba.
Donc il y a eu 150 rassemblements un peu partout pour parler de Cuba, interpeller sur Cuba. Donc ça fait partie de la mobilisation politique et ça permet de dénoncer le blocus. Il y a une nouvelle campagne de collecte pour des conteneurs. Notre comité est en train de préparer des conteneurs avec nos camarades de Montpellier, de Béziers et de Toulouse. Alors, on a des difficultés pour acheminer les conteneurs parce que il y a des compagnies françaises et autres qui ne veulent pas commercer avec Cuba parce qu'ils ont des intérêts avec les Américains. Donc, le conteneur que l'on va faire avec le conteneur ou les conteneurs sud de la France, c'est des conteneurs qui partiront d'Espagne. On fait aussi des collectes financières. C'est la CGT qui a repris l'initiative d'une collecte financière. Bon, se pose après la question sur la manière dont on doit acheminer cet argent. Puisque
les dons de médicaments, c'est le même problème. Hein. On fait des valises solidaires. Il y a certains membres d'entre nous qui allons et bon, on récupère l'argent et on essaie de faire passer de l'argent en liquide puisqu'il y a le blocage au niveau des banques, hein, il faut le dire. Et surtout les valises solidaires de médicaments. Donc ça, on est toujours preneur. On pourra vous donner peut-être en fin d'émission une adresse mail ou nous contacter pour au cas où.
Mais, je pense qu'il va falloir la donner parce que malheureusement le temps passe.
C'était voilà, très très intéressant. C'est ce que je sentais.
Et le
donc,
mot de la fin sera mon ami Daniel.
Voilà. Donc je vous redis. Donc notre adresse mail, c'est asso France Cuba Marseille 13. Tout ça en minuscule bien sûr. @gmail.com. Donc pour tout contact et on pourra aussi vous envoyer nos programmations et nos agendas du trimestre.
Voilà, merci à tous les deux. Merci, merci. François.
Merci Radio Galère, merci Daniel.
Voilà.
Merci la technique.
Michel qui est notre technicien en chef, qui est là-bas derrière. Mm-hmm. Voilà.
Merci et puis bon après-midi à
et
tous.
Et bon après-midi à toutes et à tous. Et nous vous disons donc au premier mercredi du mois de mai. Avec la libre pensée.
Je peux rajouter juste.
Oui, pas de problème.
Avant les élections municipales, nous avons écrit à tous les candidats pour les solliciter en vue de faire, bien entendu, du travail solidaire et de l'acheminement de matériel, ne serait-ce que, par exemple, les camions Ben, puisque ça manque beaucoup à Cuba, et aussi envisager de faire un jumelage avec le port de la Havane qui s'appelle Mariol. Alors, on va réinterpeller. Maintenant que les gens sont élus, vont avoir leur délégation, on ne va pas manquer de les réinterpeller collectivement.
Voilà, merci. Hein. Je vous rappelle que vous étiez sur l'émission Article 25 sur Radio Galère 88.4.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.